la première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes en 1965 à l'université d'Harvard aux États-Unis. La guerre du Vietnam dure toujours. Un homme, Jérôme Peignot, écrivain, homme de radio, français, participe à un séminaire international. Il était invité par Henry Kissinger, qui sera secrétaire d'État sous la présidence de Richard Nixon. Cet homme, Jérôme Peignot, rencontre le futur prix Nobel de littérature, le japonais Kenzaburo Oe. Ensemble, ils décident d'apostropher l'ambassadeur américain qui semble justifier la guerre. Peignot se verra retirer son visa. C'est l'un des épisodes de la riche existence d'un homme qui a traversé pratiquement tout le XXe siècle depuis 1926. C'est notre témoin aujourd'hui qui, au travers de ses multiples rencontres, de Colette à Picasso, de Cartier-Bresson à Roland Barthes, va redessiner avec nous aujourd'hui une partie de ce siècle.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Bonsoir, chers spectateurs du Théâtre de l'Alliance Française. Bonsoir, chers auditeurs de Paris Inter France 1. Voici une émission du Masque et la Plume consacrée au théâtre. Là-dessus, nos critiques de théâtre que Jérôme Peignot va chercher vont arriver. Et notre speaker va au préalable les annoncer.
Et voilà, un générique mythique, celui d'une émission qui est mythique, Le Masque et la Plume en 1961, une émission à laquelle a participé Jérôme Peignot. On y reviendra. Jérôme Peignot est avec nous. Bonjour Jérôme Peignot.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur aujourd'hui d'un ouvrage qui s'appelle Portraits en miroir, qui paraît aux Impressions Nouvelles. Ce sont quelques-unes des rencontres que vous avez faites tout au long de votre parcours. On va revenir sur ces rencontres avec vous dans quelques instants, mais avant cela, on va se replonger quand même dans votre biographie. Vous êtes né le 10 juin 1926 à Paris. Votre mère Suzanne, née Rivière, est cantatrice soprano. Francis Poulenc, cet immense compositeur et pianiste, admirait son talent. Quant à votre père Charles, il est le directeur de la fonderie de Berny et Peignot, qui est un des fleurons de la typographie française. C'est une entreprise qui a une très longue histoire. On dit que Balzac y a collaboré. C'est vrai ça, Jérôme Peignot ?
Non, Balzac avait créé une fonderie typographique. Balzac voulait à la fois écrire des livres, les imprimer, les éditer lui-même. Et il avait commencé par le commencement. Il avait créé une fonderie de Berny. Le nom de Berny doit vous dire quelque chose. C'est le nom de la Dilecta, la femme avec laquelle Balzac vivait avant Madame Hanska. Et cette fonderie de Berny n'a pas marché comme la plupart des entreprises industriels, si on peut les appeler comme ça, de Balzac. Et c'est la fonderie Peignot qui a racheté la fonderie de Berny. Et le fonds extraordinaire, avec les caractères de la fonderie, qui sont devenus depuis, que mon père a donné à l'imprimerie nationale.
Vous allez grandir, Jérôme Peignot, dans un monde de culture. Vous êtes baigné dans la culture dès votre plus tendre enfance.
Bien, oui, je ne peux pas vivre sans les livres.
Ouais.
La littérature, je me souviens, ce qui m'a permis de supporter la guerre, et en particulier la promiscuité avec mon père, qui était un collaborateur, ce qui n'était pas du tout mon idée, c'est la lecture. Je me souviens d'avoir lu Proust pendant la guerre. Mmh. Et j'ai fait toutes mes études au lycée Louis le Grand, et où justement il y avait une fraternité anti-allemande. Mais il y avait aussi des traîtres qui, là, aux aguets. Et plusieurs fois, les Allemands sont entrés dans le lycée pour venir arrêter un de mes camarades.
On reviendra tout à l'heure à la guerre avec cet épisode Drieux-La Rochelle, à qui vous allez refuser de serrer la main. Alors, à partir de la fin de la guerre, là, on saute quelques années, vous allez collaborer à différentes maisons d'édition, à la sélection notamment du Reader's Digest, lecteur, puis rédacteur aux éditions de Noël, par exemple, dans les années 60. Et puis, entre 61 et 64, vous allez être le coproducteur et l'animateur, avec entre autres Michel Pollack, de cette mythique émission de France Inter, hein, Le Masque et la Plume, toujours diffusée d'ailleurs aujourd'hui. Elle est écrite en 1955, cette émission. On y critique le cinéma, le théâtre, la littérature. On y a la dent féroce dans cette émission. Jérôme Peignot, vous étiez un des plus féroces?
Non, d'abord, Régis Bastide et Pollack avaient créé l'émission, et moi je suis une pièce rapportée quelques mois après sa création. Ils ont éprouvé le besoin d'une aide, et en particulier d'une aide un peu mystérieuse. Il s'agissait, nous enregistrions dans les théâtres tous les 15 jours, deux émissions. Mais ces émissions, il fallait les monter. Et c'était moi qui étais chargé de tous les montages. C'est-à-dire que quand je n'étais pas d'accord, ce qui arrivait souvent avec la façon dont Pollack, qui manipulait les grosses ficelles, il aimait confronter des gens dont il savait qu'ils allaient se prendre au bec.
Il avait faire du buzz.
Voilà, il faisait des grosses ficelles. Alors moi, je taillais tout ça. toutes les émissions, c'est moi qui les ai montées. Ce qui fait que j'ai eu un rôle très obscur, mais on finalement...
On vous taperait sur les doigts aujourd'hui pour avoir supprimé ces moments de bataille.
Non, il y a eu en particulier les moments où... Charançol et Jean-Louis Bory se sont confrontés, et ces confrontations sont restées très célèbres. C'était vivre ça au milieu de ces, dans cette émission, c'était une fête magnifique.
Le 6 septembre 1960, des intellectuels, des artistes publient ce qu'on appelle le manifeste des 121. C'est une déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. La direction de France Inter va exiger la censure des auteurs qui ont signer ce manifeste. Vous n'allez pas vous soumettre à cette censure, vous n'êtes pas d'accord avec cela, Jérôme Peignot.
Oh, c'est curieux que vous fassiez, je faisais justement avec une de vos collègues tout à l'heure allusion à cela. Oui, eh bien, il se trouve que le jour, il y a eu donc ce manifeste des 121. Ce manifeste de 121 était un manifeste qui avait été signé par des intellectuels qui invitaient les soldats du contingent, parce qu'il y avait encore le service militaire obligatoire, qui invitaient les soldats du contingent à l'insoumission. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que ça veut dire, l'insoumission, ça veut dire la prison à vie. Et la direction de l'ORTF, et c'est moi qui ai reçu le document, nous interdisait non seulement de faire figurer un des signataires de ce manifeste, c'est-à-dire, je ne sais pas, François Sagan, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ou même de citer son nom. Alors j'ai posé, c'était une tribune littéraire ce jour-là, et j'ai posé aux gens qui étaient là la question de savoir si, dans ces conditions, ils estimaient devoir reprendre la parole et continuer l'émission. Tous, sauf un, a refusé accepter de continuer l'émission. Et tant pis, je me suis trop engagé pour faire marche arrière. Il s'agissait d'Alain Bosquet. C'était un critique qui faisait partie de la critique littéraire et qui était de nationalité belge. Et il a dit, du moment que je suis belge, ça ne me concerne pas.
Des années 70 au début des années 80, vous allez produire des émissions pour France Culture encore, comme Les Chemins de la Connaissance. Là aussi, émission mythique, vous serez chargé de cours sur l'écriture et la typographie à la Sorbonne. Vous écrivez vous-même, bien sûr, des romans, des pamphlets, des essais, des ouvrages pour enfants aussi. Un parcours habité par quelques grandes rencontres dont on va évoquer les plus fameuses, hein, qui sont extraites de ce portrait en miroir qui paraît aux impressions nouvelles. C'est Jérôme Peignot qui est avec nous.
J'ai toujours pensé à la mort. C'est pas du tout une chose, c'est pas parce que je suis déjà un vieux monsieur. Toute ma vie, j'ai pensé à cela. Enfin, je n'avais pas 30 ans quand j'ai, une fois dans ma vie, ça arrive, essayé de me tuer, par exemple. Bon, je ne l'ai plus fait depuis, n'est-ce pas? Mais je n'avais plus de raison, parce qu'Elsa est arrivée entre-temps. Ce qui m'a éloigné de la mort dans ma jeunesse, c'est Elsa. Sans elle, je serais certainement mort. Puisque vous voulez que je dise des choses intimes, je dirais que quand nous nous sommes rencontrés, Elsa m'a dit « si ça dure un an, ce serait bien joli ». Après quoi, elle m'a dit « si ça dure 3 ans, ce serait bien joli ». Après quoi, on n'en a plus parlé.
Un jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30 sur la première.
Louis Aragon ici qui évoque sa rencontre avec Elsa Triolet. On va évoquer cette rencontre avec vous, Jérôme Peignot. Mais avant cela, encore restons dans ces années d'adolescence. Hein. Vous êtes un jeune adolescent lorsque la guerre éclate. D'habitude, lorsque vous rentrez du lycée, vous passez par la cuisine, hein, dans le domicile familial. Mais un jour, vous décidez de rentrer par le salon. Et là, vous identifiez Pierre Drieux-La Rochelle, qui est l'auteur du Feu follet, d'une femme à sa fenêtre, par exemple. Drieux-La Rochelle qui va s'engager en faveur de la collaboration durant l'occupation de la France par les nazis. Il mettra fin à ses jours en 1946. D'abord, pourquoi Drieux-La Rochelle se trouve dans le salon chez vous? Vous disiez que mon père était collabo, en fait.
J'ai évoqué tout à l'heure le fait que mon père était un collaborateur. Il était l'ami intime de Drieux-La Rochelle. Je savais cela, mais je ne m'attendais pas à le découvrir dans le salon. Nous étions, je crois que c'était la fin 41. Il était là, très élégant, fumant des cigarettes américaines, avec une femme ravissante sur le canapé. Et mon père lui dit je te présente mon fils. Et Drieux-La Rochelle me tint une main molle, et je décide tout d'un coup, je me dis, mais voilà, pourquoi tout accepter au nom de la bienséance bourgeoise? Non, cette fois, c'est pas possible, je lui réponds, non, monsieur Drieux-La Rochelle, c'est pas possible. Vous êtes une ordure, vous avez signé encore, pas plus tard qu'avant-hier, un article dans Gringoire, qui est un hymne aux soldats allemands, vous êtes un antisémite, c'est pas parce que vous êtes un écrivain que ça vous disculpe de ces positions horribles que vous avez prises. Non, je ne vous serrerai pas la main. Aussitôt, j'ai reçu une gifle magistrale. Mes lunettes ont volé dans la pièce. Par chance, j'ai remis la main dessus, j'ai remis mes lunettes, j'ai fixé mon père dans les yeux et je lui dis « Ta gifle ne songera à rien, monsieur Drieux-La Rochelle, ton ami, je ne veux pas lui serrer la main et je regrette vivement que tu l'aies reçu sous ton toit. »
C'est une sorte de bouffée d'air qui vous envahit.
Ah, enfin, je me suis senti. Je n'avais pas à être fier, c'était quelque chose que je devais faire, comme on doit se laver les dents chaque matin. Enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit pas accepter. On ne doit pas accepter certains propos de Madame Le Pen aujourd'hui. C'est pas possible. Il y va de la dignité de la personne humaine.
Comment a réagi Drieux-La Rochelle?
Oh, là c'est le pauvre Drieux-La Rochelle a dit. Ensuite, mon père, je l'ai entendu. Je suis parti de ma chambre et j'ai entendu la dernière phrase. Le plus grand écrivain français, Drieux-La Rochelle, brocardé par Jérôme, on aura tout vu. Il avait l'air lassé. Il ne comprenait pas, au fond, il ne comprenait pas l'hostilité. Enfin, voilà, pour lui, les Allemands étaient là depuis des années, des décennies. Nous ne nous entendions pas, voilà une occasion ou jamais de s'entendre. Il ne comprenait pas, Il a eu l'air très lassé, puis j'ai disparu dans ma chambre, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite.
Vous dites que c'est une scène qui vous a armé pour la vie future.
Oui, parce que finalement, la collaboration, nous ne la comprenions pas. Au lycée, tous les matins, par exemple, il y avait quelque chose qui nous frappait. À l'Odéon, à la station Odéon, il y avait un cinéma qui avait été réquisitionné par les Allemands. Les Allemands diffusaient là leur propagande. Et il y avait sur la devanture une énorme affiche du juif sus. Avec toutes les l'horreur de la caricature et des poncifs sous lequel les Allemands croyaient évoquer les Juifs. Et quand nous rentrions à la maison, on ne parlait pas du sort réservé aux Juifs. Or, nous, au lycée, un de nos camarades sur trois portait l'étoile jaune. Les Allemands, encore une fois, entraient dans la classe et venaient nous les arrêter. Et arrêter aussi des résistants, car ils étaient au fait par des bouchards de nos activités résistantes. Alors, nous ne comprenions pas. Mais moi, j'ai compris qu'au fond, oui, Drieux se réfugiait derrière sa littérature. Du moment qu'il était un grand écrivain, on devait tout accepter. Oui, mais il se trouve que Céline était aussi un salaud. Mais en même temps, et ça me perturbait, je ne comprenais pas comment on pouvait être à la fois un salaud et un génie, ce qui était le cas de Céline.
Mais pas de Drieux-La-Rochelle.
Mais pas du tout le cas de Drieux-La-Rochelle. Du tout.
Mais pas tendre sur sa littérature. Votre père vous a pardonné, Jérôme Peignot ?
Je ne sais pas. Je ne crois pas vraiment. Mais mon père était un opportuniste. Nous ne sommes pas réconciliés. Je ne l'ai pas vu pendant 28 ans. Mais enfin, nous étions en pleine guerre et j'étais sans ressources. Il a bien fallu que mes parents étaient divorcés. Il a bien fallu que je revienne, ne serait-ce que pour avoir un toit. La vie a été très difficile pendant tout le reste de la guerre. Mais, comment dire, il a changé le jour de la bataille de Stalingrad. Il avait placardé sur le mur une énorme carte avec des petites punaises liées par des fils de laine. Le fil rouge pour l'armée rouge, le fil noir pour l'armée allemande. Et j'étais invité avec lui à déplacer les punaises. Mais ça n'a pas été plus loin.
Les années vont passer, d'autres rencontres plus heureuses vont arriver, on va en évoquer quelques-unes, Jérôme Peignot, mais il y a dans votre ouvrage, Portraits en miroir, assez peu finalement de repères chronologiques, en tout cas de dates bien définies. C'est une volonté de ne pas dater les choses ?
Non, nous avons un commun accord avec M. Peters, qui dirige la
maison des Impressions Nouvelles.
Des Impressions Nouvelles et Saucher, Jacques Saucher, qui a fait ma préface, de ne mettre que des écrivains. J'avais une rencontre une fois, deux fois même avec Mitterrand. Je travaillais avec Jacques Lang. Il y a eu la rencontre avec Kissinger qui a été très 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 violente, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu limiter, et je pense qu'ils ont eu raison.
Parmi ces écrivains, Louis Aragon, donc poète, romancier, journaliste, soutien du Parti communiste français, animateur avec André Breton, Tristan Tzara, Paul Éluard et quelques autres du mouvement Dada, du surréalisme en France. Aragon, qui avec Elsa Triolet forme l'un des couples les plus emblématiques de la littérature du XXe siècle. Avec Aragon, Jérôme Peignot, vous parlez femme.
Oui. Nous formions un petit groupe comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'était fait. Il y avait Edmond Charleroux, Nourricier,
François Nourricier,
Louis Aragon, Elsa n'était jamais là, et moi. Et nous nous rencontrions régulièrement, au moins une fois par mois, à dîner dans un restaurant du 6e arrondissement. Et j'avais peu à peu fini par penser, j'avais une relation amicale, non seulement avec lui, mais avec Elsa aussi, bien entendu, que finalement, la presse et sa gloire avaient fait d'Aragon un personnage qu'il n'était pas. Par exemple, je me suis convaincu que si Aragon était devenu communiste, hein, je n'ai vu ça écrit nulle part. C'était par amour pour Elsa. Parce que Elsa était russe. Et que Elsa était la fille, la sœur de Lily Brick, laquelle Lily Brick vivait avec Mayakovsky. Et il y avait un monsieur Mayakovsky, c'était donc un mariage à trois. Et tous ces gens étaient des intellectuels de haut rang. Lily Brick était, la Brigitte Bardot soviétique, mais ils étaient sous la férule et l'interdit des staliniens, ne serait-ce que parce que Elsa Triolet et Lily Brick étaient juives.
Elsa Triolet qui s'est mise en tête de vous faire épouser Edmond Charleroux, oui. Qui sera un prix Nobel, un prix Goncourt, pardon, en 1966.
Alors, Edmond était charmante, je n'étais pas amoureux d'eux, mais je l'admirais. Elle avait fait une guerre magnifique, magnifique. Mais c'était une amie intime, mais voilà, c'est une idée un peu sombre.
Jérôme Peignot, on va évoquer encore avec vous quelques grandes rencontres après, d'ici une petite minute.
Le pronom personnel « je », par exemple, qui est un mot linguistique tout à fait étrange, puisque en réalité... son contenu change à chaque fois qu'on le profère. Dans toute l'histoire du monde, il n'y a jamais eu deux « je » qui ont eu le même contenu. Et pourtant, c'est un mot que tout le monde peut comprendre, qui donc fait parfaitement partie de la langue.
Laurent de Hausset, un jour dans l'histoire, sur la première.
On était en 1975 avec cette archive de la Sonuma, Roland Barthes. Vous écrivez à propos de Roland Barthes, Jérôme Peignot, la politesse dont il faisait preuve donnait à penser, tant elle lui était naturelle, qu'elle aurait dû être celle de tout un chacun. Tout dans son attitude n'était que douceur. Avec lui, la politesse faisait corps avec l'écriture. Alors Roland Barthes, bien sûr, grand penseur du XXe siècle, grand sémiologue. Il est mort en 1980. Vous devez enregistrer une émission avec lui. Vous lui faites part de vos réflexions. Et lui, il vous parle d'amitié, essentiellement d'amitié.
Oui. Il m'a raconté cette chose que je trouve magnifique et que j'avais éprouvé moi-même parce que j'ai été moi aussi enseignant. J'ai passé un doctorat sur le thème de l'écriture parce que nous avions formé un complot avec Jacques Lang. C'était d'introduire le savoir de l'écriture, son histoire, mais aussi ses techniques et dans toute la filière à la fois scolaire et universitaire. Et à propos de ces réunions au Collège de France, pardonnez-moi, je manque une cheville. Ce qu'il nous disait, c'était aussi, il avait une passion pour l'écriture. J'ai beaucoup écrit sur l'écriture et nous avions même eu le projet d'écrire un livre ensemble sur le sujet de l'écriture. Il avait d'ailleurs inventé une fausse écriture que j'ai appelée les contre-écritures. Ce sont où il singeait l'écriture alphabétique, mais ça ne relevait pas de l'alphabet. Et il envoyait à ses amants des textes écrits dans cette contre-écriture que seul lui et ses amants pouvaient lire. Mais je reviens à l'histoire qu'il m'avait racontée et l'émotion qu'il éprouvait au Collège de France. Il disait que quand le cours était bien amorcé, quand il sentait qu'il avait, saisi la salle, il sentait qu'il y avait à ce moment-là une espèce de circulation amoureuse entre la salle et lui. C'est-à-dire qu'il avait l'impression que c'était par son écoute, son talent d'écouteur, le public lui apprenait ce que il leur enseignait. Une circulation amoureuse. Et il avait besoin de cette sensation pour enseigner.
Vous avez rencontré aussi Jacques Lacan, l'une des figures majeures de la psychiatrie, de la psychanalyse. Lorsqu'on rencontre celui qui a donné naissance à tout un courant de la psychanalyse, est-ce que l'on n'espère pas secrètement, Jérôme Peignot, qu'il va, au fond, vous révéler votre profond moi, votre personnalité véritable?
Alors, je me suis trouvé en présence de Lacan sans l'avoir souhaité. Je n'avais pas du tout pour Lacan l'admiration du moment. Je trouvais ça ce qui m'a éloigné de la psychanalyse, c'était simplement qu'il fallait simplement rétribuer l'homme qui vous mettait sur son canapé, et que rien que cela suffisait à justement démonétiser à mes yeux. Mais alors, ce jour-là, c'était chez des amis, une femme qui était une psychosomaticienne qui recevait beaucoup dans une superbe maison qu'ils avaient aux environs de Chartres à Tivard. C'était un moulin sur l'Eure, et ce week-end-là, ils avaient reçu beaucoup de gens. Je me souviens de Kaiwa qui était là, je me souviens, enfin, un jour, donc, il y a eu Lacan. Il s'est trouvé que il a fait un discours auquel, finalement, renseignements pris après, peu de gens ont compris quelque chose. Et le surlendemain, c'était le week-end, j'avais passé deux nuits là. Hélène Michel Wolfram, qui nous avait reçus, a reçu un message provenant de Lacan qui lui disait son plaisir d'avoir passé cette soirée au milieu des amis de mes amis Wolfram, et que tout bien réfléchi et tout bien plaisé, et bien, disons que j'ai converti ça en euros, 5000 euros ferait bien l'affaire.
Et ça ne vous a pas plu du tout. Nous sommes avec Jérôme Peignot.
Au moment de m'adresser pour la première fois au vaste public qui écoute le disque, on me demande de porter moi-même une sorte de jugement sur mon œuvre. C'est la chose au monde que je sais faire le moins. Et pourquoi, à ce compte, ne me demandons pas quelques considérations générales sur l'art de la tapisserie? Là, du moins, je me sentirais un peu de compétence, après tout, depuis 10 ans que je m'accorde de nouveau la douceur du point croisé. J'ai passé presque autant de temps l'aiguille en main que le stylo. Il m'a fallu beaucoup de temps pour noircir une quarantaine de volumes.
C'est la voix de Colette qu'on a écouté ici, Jérôme Peignot. Hein, nous sommes à Paris, des fenêtres qui donnent sur les jardins du Palais Royal. Et derrière ces fenêtres, on va rendre visite avec vous à Colette, l'auteur des Claudine, du Blé en herbe ou encore de Gigi. Vous accompagnez un éditeur venu lui soumettre une idée d'illustration de son livre de souvenirs, L'étoile Vespère. Et pour vous recevoir, Colette a véritablement procédé à une mise en scène de sa personne.
Oui, je la vois encore devant cette petite fenêtre où elle avait placé son fanal bleu, comme elle disait. Oui, elle était allongée, elle était déjà d'un grand âge, mais elle était d'une très grande coquetterie. On sentait qu'elle avait, harmoniser la couleur de ses cheveux légèrement roux avec une écharpe violette. Enfin, il y avait une recherche et une grâce délicieuse. Et tout d'un coup, elle s'est mise à nous raconter une histoire qui se serait passée, comment dire, en bas de chez elle, où il y avait un petit théâtre où elle s'était adonnée plusieurs jeune, années, de nombreuses années auparavant, car elle était une actrice, et elle nous a raconté qu'elle avait été, poursuivie par un admirateur qui venait pratiquement chaque soir qu'elle jouait lui offrir et lui apporter un bouquet de roses. Et que ce soir-là, elle avait, en dépit des espèces d'entraves qu'elle avait essayé de mettre sur le chemin de cet homme, il était arrivé jusqu'à sa loge avec son bouquet de roses à la main, et qu'elle s'en était emparée et qu'elle l'avait giflé avec les roses. Alors, je trouvais l'histoire extraordinaire, merveilleuse, et elle s'est retournée vers moi, et j'ai eu le culot de lui dire « Non, madame, cette histoire n'est pas abominable, comme vous le dites, et pourquoi non ? Mais parce qu'elle est fausse. Vous nous racontez une histoire que vous allez écrire, vous la testez devant nous, et vous avez raison, vous la mettez au point, mais elle n'est pas juste. » Alors à quoi elle m'a répondu « Bien, vous avez tout compris, et... finalement, elle m'a conseillé,
et elle vous
fort
a embrassé.
De cette réponse, que je me mette moi-même à mon tour à écrire.
Et elle vous a embrassé aussi, elle ne vous a pas
et
voulu.
Et elle m'a embrassé, et je sens encore là, sur mes lèvres, la caresse de sa joue.
Est-ce que vous avez été impressionné par toutes ces rencontres que vous avez faites ? Est-ce que vous étiez un homme impressionnable, Jérôme Peignot ?
Il y a une, peut-être celle qui m'a le plus impressionné, ou en tout cas la rencontre qui a joué le plus grand rôle dans ma vie, c'est la dernière. Si vous me permettez, je vais vous en parler. C'est celle de Paul Valéry. Pardonnez-moi. Pour répondre d'abord à votre question, je m'étais fixé une idée d'emblée. Ces hommes, pour être de grands hommes, n'en étaient pas moins des hommes, c'est-à-dire des gens de chair et de sang comme moi, comme vous, comme nous tous, et pas besoin de leur adresser la parole avec un col à bouffer de la tarte, comme on dit. J'essayais d'être le plus naturel possible. Et je sens que plusieurs d'entre eux, dont Paul Éluard, ont senti ça chez moi. On sentait que je ne venais pas voir le monstre, mais que je venais le voir parce que, en ce qui concerne Éluard, c'était indispensable. J'avais une telle admiration pour cet homme qu'il fallait que je le rencontre. Et il m'a reçu comme si j'étais son fils. Bon, je reviens à Paul Valéry. Mon père a dirigé une maison d'édition qui s'appelait Les Arts et Métiers Graphiques, qui publiait une revue magnifique. Et dans cette revue, mon père avait décidé de demander à Paul Valéry d'écrire un article où il parlerait du plaisir, de la joie, de l'extase même que lui procurait le fait de retrouver des textes qu'il avait écrits, merveilleusement imprimés, car il pensait comme moi. Ça avait été un des sujets que nous avions évoqués, qui est comme Mallarmé, qu'un livre, ce n'était pas simplement un écrivain, mais c'était toute une équipe. C'était un éditeur, c'était un imprimeur, c'était un fondeur de caractère, c'était un relieur, enfin, c'était toute une équipe. Et Paul Valéry a accepté l'invitation. C'était moi qui étais chargé de la mise en page de son futur article. Alors, je lui ai proposé une mise en page, mais avant qu'il ne s'en aille, je lui ai sorti d'un tiroir quelques-uns des poèmes que j'avais déjà écrits. J'avais eu le culot de les lui montrer et de lui demander qu'est-ce qu'il en pensait. Il a pris ses documents et il m'a dit « Je reviens dans 15 jours, je vous répondrai ». Alors, au bout de 15 jours, effectivement, il est revenu. Je n'en menais pas large. Mais finalement, au bout du compte, il m'a regardé fixement, d'un regard très appuyé. Et il m'a dit, « Monsieur Peignot, vous y arriverez parce que vous n'avez pas grand-chose à dire. » À la maison, mon père était trop content et il m'a dit « J'espère que tu ne vas plus nous enquiquiner avec, avec tes poèmes. » À quelque temps de là, moi-même, je n'avais pas finalement pris cette réponse de Valérie en mauvaise part. Au contraire, son regard m'avait paru tellement parlant. J'avais eu la conviction qu'il m'avait répondu d'une façon très importante et une façon qui le concernait lui-même. Bref, quelques années plus tard, il était mort. Un de mes amis me propose la lecture du cahier, des cahiers de Paul Valéry que je retrouve chez lui. Et je tombe sur cette phrase. « Et aujourd'hui rencontrer un jeune poète. Lui ai dit, vous y arriverez parce que vous n'avez pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que je fais d'autre moi-même? Chaque fois que j'ai une idée, je m'empresse de l'écrire parce que je ne suis pas du tout sûr d'en avoir une autre. Qu'est-ce que la pensée, sinon le dénombrement des pensées ?»
Ce sera le mot de la fin. Jérôme Pénoud, en tous les cas, pour, en ce qui nous concerne, parce qu'on peut retrouver cette histoire et toutes les autres dans cet ouvrage. Portraits en miroir, aux impressions nouvelles, merci d'avoir été avec nous.